ma thèse de doctorat porte sur la gestion, la gouvernance de l'eau dans le bassin du Rio Grande et du Rio Bravo. Donc le Rio Bravo, c'est juste la section du bassin au Mexique. Mais quand même, je vais parler un peu sur le bassin aux États-Unis. Donc juste un bref résumé. Et qu'est-ce que c'est la gouvernance? Bon, la gouvernance consiste, et c'est comme ça que je le définis, c'est comme ça que je pense ces concepts, dans la relation, le sort d'interaction, négociation et relation de collaboration, coopération, négociation entre l'État et les acteurs, avec l'objectif de concilier les intérêts et les objectifs par rapport à la gestion des ressources qui se trouvent dans les bassins. Qui sont les acteurs? Les acteurs sont tous ceux qui ont en anglais un stake par rapport à la gestion des ressources. Les défis qui sont les résultats des crises de l'eau mettent en question la capacité institutionnelle de tous les partis impliqués ou de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la gestion des ressources en eau et des besoins sociaux, économiques et environnementaux. Dans le cas du Mexique, dans le cas particulier du bassin du Rio Bravo, c'est un cas exemplaire du besoin de renforcer le cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion intégrée des ressources hydriques, dans l'objectif de résoudre le... Je suis en train de... Mon cerveau est tout mélangé parce que j'ai lu en espagnol et pas en français. De la crise hydrique régionale et de renforcer la gouvernance de la cuenca, tout ça dans la section drainée par le Rio Bravo. Parce que ce n'est pas, la situation ce n'est pas la même partout dans les pays. Donc un peu lors de la présentation, donc cinq points, la gouvernance de l'eau, le contexte, les objectifs, les acteurs, un changement de paradigme par rapport à la gestion de l'eau au Mexique, la problématique particulière dans le cas du bassin du Rio Bravo et la gouvernance dans le bassin du Rio Bravo. Donc je reviens, la gouvernance de l'eau dans le cadre de cette recherche, c'est mettre en question la capacité des acteurs pour résoudre les problèmes de la gestion de l'eau. Et c'est aussi la faiblesse des acteurs vis-à-vis les structures institutionnelles qui a comme objectif la préservation, la conservation des ressources hydriques et aussi leur capacité pour résoudre tous les défis qui mettent en question leur capacité par rapport à la gestion des ressources en eau. Dans la région, les risques qui sont le résultat de la pérennité des ressources, de périodes de sécheresse assez ponctuelles, assez régionaux, et la surexploitation et la dégradation hydrique, la perte de la biodiversité, le gouvernement fédéral national a décidé de de moderniser toutes les structures sur lesquelles reposait la gestion de la ressource au Mexique. Ce changement de paradigme a lieu pendant les années 80, plus précisément dans les années 1980 sous l'administration de Carlos Salinas de Gortari. À cette époque, la gestion des ressources en eau était tout à fait à niveau national. C'était la fédération à la ville de Mexico qui gérait les ressources en eau dans tout le pays. À partir de ce moment, des changements et des réformes ont été faits à la constitution politique des États-Unis et par la suite, à partir de cette époque, 1980, les États, 31 États mexicains, ont eu la capacité de gérer par eux-mêmes les ressources en eau dans leur territoire. Ça veut dire que à partir de ce moment, chaque État a eu l'autonomie de gérer ses propres ressources. Par la suite, et plus précisément dans les années 80-92, a été mis en place le modèle ou l'approche de gestion des ressources intégrées des ressources en eau. Dans la région drainée par le Rio Bravo, c'est-à-dire 5 États, Chihuahua, tout à l'heure je vais vous montrer une carte, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. A ITEMI en place le modèle de gestion de ressources intégrées par ressources en eau. Et c'est jusqu'en 1999 que a été instauré et mis en place des institutions et des organisations pour vraiment mettre en place cette approche, que c'est l'approche de gestion des ressources, de l'approche intégrée des ressources en eau. Mais c'est petit à petit que ce modèle a été mis en place un peu partout au pays. Donc voilà la cuenca del Río Bravo, le bassin du Río Bravo. À manière de données géographiques, le Río Bravo a une longueur de 2000 km, c'est-à-dire le Río Bravo juste à partir de la confluence de El Paso, Texas et Ciudad Juárez. À partir de ce point-là, le fleuve mesure 2000 km jusqu'au golfe du Mexique. Mais le fleuve, à partir de sa source au Colorado, Texas jusqu'au golfe du Mexique, fait 3000 km, 3051 km. Donc, le bassin au Mexique, le bassin du Rio Bravo, juste le territoire drainé à partir de Ciudad Juárez jusqu'au golfe du Mexique, fait 226 km². Le bassin drainé aux États-Unis, le territoire drainé aux États-Unis, fait 231 km². Mexique, les territoires drainés sont encore une fois sont Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León et Tamaulipas. Aux États-Unis, le bassin du Rio Grande correspond aux États de Colorado, Nouveau-Mexique et Texas. Donc encore une fois, c'est la frontière, ce sont le Rio Bravo. Vous voyez ici les principaux barrages. Et à Ciudad Juárez, on trouve à Sequia Madre du côté mexicain et du côté des États-Unis à El Paso, Texas, il y a American Canal. Il y a aussi la Presa de l'Amistad et Presa Falcón, barrage Falcón. Il y a aussi les principaux tributaires du côté mexicain, que c'est Conchos et après Salado. Ce que je vous disais tout à l'heure, le changement de paradigme du côté mexicain a consisté notamment dans la gestion des ressources naturelles, notamment dans la gestion des ressources en eau dans les années 80 et notamment dans la mise en place dans les années 99, que c'était le Consejo de Cuenca et aussi l'organisme du bassin du Rio Bravo. Ici, il est important de mentionner que partout au Mexique, il existe des conseils de bassin et d'organismes de bassin. Et selon la loi nationale des eaux, en espagnol, la ley nacionales de aguas, la ley de aguas nacionales, pardon, la LAN, il est censé que chaque organisme de bassin versant, le président de chaque organisme est une personne qui est élue de façon en vote pour le président de chaque organisme. Dans le cas particulier du Rio Bravo, le président de cet organisme de bassin versant est le président ou le directeur général de la Commission nationale des eaux, donc de l'organisme fédéral. Ici, il y a un conflit d'intérêts. C'est assez intéressant comment, jusqu'à aujourd'hui, depuis 1999, la même personne qui dirige l'organisme de bassin versant du Rio Bravo est toujours le président de la CONAGUA, de la Commission nationale des eaux. Mais cela n'empêche pas que bon, l'organisme il est toujours là et le conseil du bassin versant il est toujours là. Cependant, on va voir tout à l'heure que dans les témoignages des entrevues que j'ai fait sur le terrain, on dit que le fonctionnement de l'organisme et du conseil n'est pas tout à fait l'idéal et il y a encore du travail à faire pour que le fonctionnement puisse être l'idéal et donner des résultats positifs pour le bon fonctionnement et la bonne gestion des ressources en eau. Donc, la problématique du bassin du Rio Bravo est un bon exemple du besoin de renforcer sur place le cadre institutionnel dans la région pour que la gouvernance des ressources en eau puisse être consolidée et ainsi résoudre la crise hydrique régionale. Donc oui, effectivement, il y a un cadre de gestion, il y a un cadre de gouvernance, mais de bons résultats n'existent pas. Qui sont les acteurs dans la gestion du bassin du Rio Bravo? Donc, on parle de la Commission nationale de l'eau, qui est une entité fédérale et à niveau national du côté du Mexique. On parle aussi, on n'oublie pas que le bassin du Rio Bravo est limitrophe et frontalière, c'est-à-dire qui est partagé avec les États-Unis. Donc on est en train de parler d'un côté et d'un bassin qui est partagé par deux entités fédérales, c'est-à-dire les États-Unis qui sont voisins du côté du nord. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des eaux frontalières? C'est-à-dire qu'il y a une autre commission, il y a une autre organisation qui est la Commission internationale des limites des eaux, ou en anglais International Boundary Water Commission. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que la Commission nationale des eaux et la IBWC gèrent ces bassins? Bon. Et la commission, la CILA, dépend de la Secrétariat des Relations Extérieures, le ministère des International Affairs. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, troisième et quatrième, c'est le traité de 1944 et la convention de 1906. Le traité de 1944 et la convention de 1906, ce sont des documents bilatéraux entre le Mexique et les États-Unis qui concernent le partage quantitatif des eaux de surface du fleuve. En résumé, la convention de 1906 est un document qui concerne les eaux de surface du fleuve à partir de la source, c'est-à-dire du Colorado, jusqu'au, disons, le barrage qui s'appelle Elephant Butte, qui se situe au Nouveau-Mexique. Jusqu'à là, ces segments du bassin est couvert par ces documents. Et c'est ces partages qui concernent cette convention, et ce sont des eaux, une certaine quantité, qui les États-Unis doivent donner au Mexique dans le cadre de cette convention. Le traité de 1944 couvre les eaux de surface qui vont de, disons, de El Paso, Ciudad Juárez, jusqu'à le golfe du Mexique. Donc, ça veut dire que ces deux documents couvrent la totalité de fleuves, la totalité des eaux de surface, et donc toutes les eaux de surface du fleuve sont partagées aux États-Unis et au Mexique. Mais qu'est-ce qui se passe alors avec la section limitrophe du fleuve? Qu'est-ce qu'il y a à faire la Commission nationale de l'eau et la CILA? Bon, la CILA, vous voyez ici dans cette carte, la CONAGUA, comme institution, comme organisation mexicaine, elle gère les ressources en eau du côté mexicain. Mais la CILA est l'organisation bilatérale responsable du respect et du bon fonctionnement des termes du traité de 1944. C'est l'organisation qui surveille que tout ce qui est écrit dans le traité de 1944 est conforme. La CILA est aussi l'organisation qui surveille que les infrastructures hydrauliques qui ont été construites le long du fleuve frontalier, c'est-à-dire à Sequia Madre, American Canal, la Presa Falcón et la Presa Amistad, sont en bon fonctionnement. fonctionnement. C'est-à-dire que tout ce qui est construit le long du fleuve frontalier fonctionne bien. Aussi, la SILA surveille le reste de la frontière, c'est-à-dire la frontière terrestre. La SILA, c'est l'organisation frontalière entre le Mexique et les États-Unis, c'est-à-dire la frontière hydrique et la frontière terrestre. La SILA aussi est responsable de tout ce qui se passe du côté du Rio Colorado, donc toute la frontière du Pacifique jusqu'au l'océan Atlantique. Ça, c'est la SILA. Donc, si jamais il y a des tensions diplomatiques entre le Mexique et les États-Unis en ce qui concerne la frontière, c'est le Mexique, par l'intermédiaire des relations extérieures, du ministère des Relations extérieures, qui vont résoudre tout ce qui se passe. Et c'est la SILA qui va faire la gestion du problème avec la section américaine de la SILA. Et ils vont trouver une solution. Cette carte ici, je souhaite vous montrer le bassin dans sa totalité et comment, suite à la distribution des eaux, c'est-à-dire principalement la convention de 1906 et le traité de 1944, il est fragmenté. C'est-à-dire, puisque on partage les eaux entre plusieurs territoires, pour ce faire, on construit des barrages. Le bassin, il est fragmenté. C'est-à-dire, au Colorado, on trouve ce qu'on appelle le Close Basin. Au Nouveau-Mexique, on trouve le Middle Rio Grande Basin, qui est en bleu. Et au sud du Nouveau-Mexique, on trouve ce qu'on appelle El Paso del Norte Watershed. Après, en vert, on trouve en Texas, on connaît comme la cuenca del Río Grande, et au Mexique, la cuenca del Río Bravo. Et cette carte montre notamment chaque bassin, et chaque bassin commence là où le barrage a été construit, c'est-à-dire le barrage où les eaux, où proviennent les eaux. C'est-à-dire, par exemple, El Paso del Norte Watershed commence juste downstream.
En aval
du barrage Elephant Butte. Le bassin de Middle Rio Grande Basin commence juste en aval de Cochiti Dam, qui sont les principaux barrages qui ont été construits pour la distribution des eaux. Et par exemple, le bassin au Texas, on sait que Texas ne reconnaît pas le bassin au Colorado et au Nouveau-Mexique. Au Texas, on sait que le bassin du Rio Grande commence juste en aval de Elephant Butte, parce que Texas reçoit ses eaux juste en aval de Elephant Butte. Donc, au Texas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au Colorado, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au nord du Nouveau-Mexique. C'est comme une frontière invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on sait parce qu'il y a un barrage, c'est à partir de là que ça commence le bassin au Texas. Et c'est très intéressant parce que quand j'ai fait les entrevues sur le terrain, personne ne s'intéressait, personne ne disait « Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Colorado et ça ne m'intéresse pas parce que je sais que mes eaux proviennent de Elephant Butte. » Et c'est à partir de là que ça commence le bassin au Texas. Donc, effectivement, le bassin ne commence pas là où la frontière administrative de Texas se trouve, mais ça commence où le barrage principal a été construit. Et d'ailleurs, le barrage principal se trouve au Nouveau-Mexique, qui est Elephant Butte. Donc, quels sont les défis du bassin du Rio Grande et du Rio Bravo? Et ici, je parle du bassin dans sa totalité. Bon, c'est la décentralisation et la centralisation du côté des États-Unis à cause du fédéralisme, du fait que chaque État gère ses ressources naturelles par lui-même, et que chaque État, dans chaque État, il existe une panoplie des institutions et des organisations qui gèrent ces ressources et comme ils veulent. Du côté du Mexique, il existe une organisation, que c'est là qu'on voit, il existe une organisation qui est aussi très très présente sur place dans la région du Rio Bravo. Et bah, ça pose une problématique énorme, les modèles de gestion dans la région du Rio Grande aux États-Unis. Et même s'ils connaissent le modèle de gestion intégrée des ressources ou non, ils ne s'intéressent pas. Parce que ce qui importe, c'est la quantité d'eau, c'est la gestion des problématiques quantitatives, qualitatives, régionales et sur place. Gérer des problématiques à grande échelle et sur le bassin, ce n'est pas de leur intérêt parce que la vision du bassin n'est pas généralisée. Le bassin est délimité et défini par la construction des barrages, alors que le bassin est plus que ça. Et ça s'explique par la réorganisation du bassin qui est définie par tous les travaux d'ingénierie hydraulique construite dans le bassin. Et ça explique aussi la fragmentation du bassin. La crise hydrique régionale. Et ça vient de. C'est par rapport au Rio Bravo et ça vient de. Ce sont des témoignages des entrevues. Dans le bassin du Rio Bravo, les problèmes environnementaux du bassin sont propres de la zone géographique du bassin, puisque c'est une zone désertique, donc la quantité d'eau précipitée est très très faible. Le bassin, pour qu'il soit rechargé de façon naturelle et précaire. Le problème environnemental du bassin est la surextraction de la ressource et la faible médition et contrôle des extractions. Donc, qui fait le contrôle de tout l'eau qui est pompée, de tout l'eau qui fait cette mesure? C'est la SILA. La SILA, la section mexicaine et la section américaine ont un système de comptabilité de tout l'eau qui est utilisée par les deux gouvernements. Tous les jours, il y a un système de comptabilité qui est affiché sur Internet de l'eau qui est utilisée par le Mexique et les États-Unis. Et on en a accès sur Internet. C'est intéressant. Le fait de pouvoir rendre la quantité d'eau selon les termes du traité 1944 est aussi un défi parce que qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve ou bien dans le barrage et qu'on sait le temps de rendre la quantité d'eau, surtout pour le Mexique, et qu'on n'y a pas assez d'eau aux États-Unis? La quantité d'eau que le Mexique doit donner aux États-Unis, c'est, si je ne me trompe pas, c'est de 74 millions de mètres cubes par année aux États-Unis, selon le traité de 1944. Et selon les personnes que j'ai rencontrées, ils disent que l'État environnemental, la dégradation de l'état environnemental du bassin, c'est le résultat du manque de coordination et coopération entre les États drainés, entre les cinq États mexicains drainés, et de l'inertie qui existe entre les intéressés et les institutions. Parce que l'État fédéral, par l'intermédiaire de la CONAGUA, de l'institution fédérale mexicaine, est toujours très présente. Et peut-être que c'est à cause du fait du caractère binational du bassin. Peut-être que c'est aussi à cause du fait que, puisque c'est un bassin partagé avec les États-Unis, et le gouvernement ne se méfie des institutions que lui-même il a créées pour pouvoir leur donner de l'autonomie, pour pouvoir gérer un bassin qu'il doit partager avec les États-Unis. Je ne sais pas, mais il est très pressant l'État fédéral pour pouvoir laisser, pour pouvoir donner de l'autonomie, que ce soit au niveau décisionnel et au niveau financier, à l'organisme de Bassin-Versin et au conseil de Bassin-Versin, pour pouvoir gérer eux-mêmes le Bassin-Versin du Rio Bravo. Il y a une question de géopolitique aussi présente. Le modèle de la gestion intégrale des ressources en eau a été imposé sans considérer les caractéristiques propres du bassin. Même aujourd'hui, les cinq États ont la difficulté pour apprendre à gérer ces modèles de gestion. Par exemple, l'État Chihuahua, qui est l'État où se trouve le tributaire le plus important du bassin, qui est le Rio Conchos, lui, puisque c'est l'État qui possède, disons comme ça, qui possède les tributaires les plus importants du bassin, ne veut pas partager des informations quant à la quantité d'eau qu'il possède. L'État Chihuahua, que c'est l'État qui se trouve en aval du bassin, lui, c'est le plus intéressé à intégrer la gestion des ressources en eau dans le Rio Bravo, puisque c'est lui qui souffre les conséquences de la gestion du bassin. Et normalement, dans un cas comme ça, ce sont les États, ou ce sont ceux qui se trouvent toujours en aval, qui souhaitent que l'intégration se fasse, ou que la gestion se fasse de façon intégrée, alors que ceux en amont sont les plus, qui disent non, on ne veut pas intégrer parce que nous sommes ceux qui possèdent la source de la ressource. Et c'est le cas entre Chihuahua et Tamaulipas. Ça, c'est, je n'ai pas voulu traduire, c'est un extrait d'une entrevue. Et ça parle aussi du fait de... Il y a quelque chose qui passe, qui arrive dans le cas de deux fleuves, de deux bassins, dans le cas du Rio Grande et du Rio Bravo, le sens d'appartenance des citoyens. Les citoyens, quand ils regardent le fleuve qui est en mauvaise qualité, quand le fleuve il n'est pas beau, quand il n'y a pas, ou encore pire, quand il n'y a pas d'eau, ils n'ont pas envie. Bien sûr, ils n'ont pas envie d'aller se baigner, ils n'ont pas envie de participer quand il y a un groupe environnemental ou quand il y a des autorités qui veulent leur faire participer à des activités de restauration ou bien juste que veulent leur encourager à utiliser moins d'eau, par exemple. Donc, s'ils regardent une image comme ça, c'est sûr que les citoyens ne vont pas avoir ou ne vont pas développer un sens d'appartenance à la région. Et c'est le cas à Ciudad Juárez, à Tamaulipas, à Las Cruces, où la qualité d'eau du fleuve est comme cette photo. Et ça, ça n'aide pas aux groupes environnementaux, ça n'aide pas aux agences qui dédient leur activité à, notamment à la sensibilisation des gens. Et ce sont quelques photos. À votre gauche, c'est Albuquerque. Albuquerque, c'est une ville au nord du Nouveau-Mexique. Et l'écosystème, c'est plutôt une forêt. Donc, le fleuve, disons, qui est beau. Ici, en bas, c'est Laredo, Texas. Aussi, la photo, disons, qui est belle. Mais du côté droit, c'est Las Cruces. Las Cruces, il y a trois villes très importantes du côté de la frontière. C'est comme une triade. C'est Las Cruces au Nouveau-Mexique. Après, il y a El Paso, Texas et Ciudad Juárez. C'est un triangle métropolitain très intéressant parce que ce sont des villes qui consomment beaucoup d'eau. C'est une région originellement désertique, mais qui est arrivée, les trois villes sont arrivées à développer un autre niveau de agriculture. On cultive du coton, de l'alfalfa, du chili, du pécan, des noix, oignons. Et normalement, ce sont des produits qui consomment beaucoup d'eau. Donc la question est, comment on fait, comment est-ce qu'on a parvenu à développer cette région au niveau agricole, alors que c'est le désert qui n'a pas d'eau et qu'on continue à se développer au niveau démographique, au niveau économique. Et voilà, peut-être que la faute ici, on va vous donner une idée de réponse. C'est le fleuve, un fleuve de sable notamment. Ce fleuve a de l'eau uniquement pendant la période d'irrigation. C'est-à-dire, la période d'irrigation, dans les termes de la Convention de 1906, et le fleuve, le lit du fleuve est humide, a de l'eau uniquement entre mars et octobre. C'est la période d'irrigation. C'est la période pendant laquelle les États-Unis livrent de l'eau au Mexique. Entre octobre et février, le fleuve est comme ça. On peut se promener. Il y a des gens qui promènent leurs chiens et on fait du jogging et on trouve des coquilles et comme ça. Il y a des gens qui disent que le fleuve c'est comme un robinet, on ouvre le portière du barrage et voilà, il y a de l'eau qui coule. Autrement, c'est complètement sec. Une crise institutionnelle. Oui, c'est un bassin, en parlant du Rio Grande, Rio Bravo, à partir de Ciudad Juárez, El Paso jusqu'au Golfe du Mexique. C'est un bassin binational. La distribution de l'eau est institutionnalisée par des cadres légaux et administratifs, notamment le traité de 1944. Chaque régime a généré la construction d'une série d'infrastructures hydrauliques qui fonctionnent comme des références de la fragmentation du territoire. C'est ce que je vous disais du barrage, notamment Falcon et Amistad. Et différentes institutions et organisations ont la responsabilité de la gestion et distribution de liquide dans le territoire fragmenté. C'est la SILA. Quelqu'un disait, si tu veux, l'USMA parler d'un cadre de gouvernance dans le bassin, dans sa totalité, ça n'existe pas. Mais si tu veux parler de plusieurs gouvernances, oui, ça existe. Parce que, puisque le bassin est complètement fragmenté, alors il existe plusieurs cadres de gouvernance. Et chaque petite gouvernance correspond à chaque segment du bassin. Et ici, rapidement, les petits points. Bon, par ordre chronologique, en bleu, c'est la Convention de 1906. Donc, c'est le territoire couvert par la Convention de 1906. Les eaux de surface distribuées par les États-Unis au Mexique. Et 1939, c'est le compact du Rio Grande, c'est juste un accord entre les États-Unis, le Colorado, le Nouveau-Mexique et le Texas. Et 1944, c'est le traité qui couvre les eaux de surface à partir de El Paso, Ciudad Juárez, jusqu'au Golfe du Mexique. Donc, 100% des eaux de surface du fleuve sont complètement distribuées. Et ici, c'est à peu près, au total, il y en a 24. Barrages construites tout au long du fleuve, donc complètement aménagé. Donc j'avance qu'il y a une crise de gouvernance et une crise, tout ça s'est traduit en crise environnementale et qu'il n'existe pas une vision commune du bassin. Et bon, le défi aussi, c'est le fonctionnement du Conseil de Cuenca dans le cas de Rio Bravo, puisqu'il n'a pas encore rendu comme une agence autonome à cause du fort pouvoir décisionnel qui eut encore la CONAWA dans la région. Donc, comme réflexion finale, dans la crise institutionnelle et environnementale du bassin du Rio Bravo est avant tout une crise de gouvernance caractérisée par le manque d'intégration et coordination entre le sous-saillé, la société et les trois niveaux de gouvernement et le manque de reconnaissance du bassin comme un espace géographique de gestion des ressources eau. Voilà.
Merci. Bravo. Moi, j'ai une question au point de départ. C'est un cas assez amusant. Enfin, je m'excuse, mais c'est un cas assez amusant parce que le fleuve n'a pas le même nom selon qu'on est américain ou mexicain.
Oui.
Ça, c'est quand même assez révélateur. Est-ce que ça s'explique? Pourquoi il y a deux noms comme ça? Pourquoi on ne s'est jamais entendu sur le même nom?
Parce que c'est... Bonne question, hein?
D'accord. Mais pensez-y, on verra. Mais ça m'a toujours un peu tourmenté, cette histoire-là, qu'il y avait deux noms pour un même fleuve. Je comprends qu'on peut le traduire d'une langue à l'autre, mais bravo,
parce que
c'est pas...
Avant, il était une fois, le fleuve, il était une fois, un fleuve qui était... Le débit était très, très fort, qu'il était tellement grand. Et en espagnol, grande, c'est énorme. Et Bravo, il était violent. Tellement il était grand que les Espagnols l'ont trouvé qui était violent, qui était capable de détruire les sociétés, tout le village qu'il traversait.
Et le Bravo?
Ça vient de là aussi.
Ça aussi?
Oui.
Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant. Oui, est-ce qu'il y a d'autres... C'est assez intéressant parce que j'avais dit au début qu'avec Luzma, on avait travaillé ces questions de gouvernance et moi, je suis revenu aux questions de gouvernance. Et ce qui m'intéresse comme question dans le travail, c'est, bon, à la fin, manque de coordination entre usagers et gouvernement à trois niveaux. Gouvernement à trois niveaux, on a vu, mais les usagers, c'est qui? C'est les consommateurs, c'est les entreprises, c'est...
Aux eaux de surface, puisque la première utilisation des eaux de surface du fleuve, c'est l'agriculture.
Donc ce sont les agriculteurs. Est-ce qu'ils sont représentés sur les chaînes de gouvernance?
Ils sont représentés.
Américains et mexicains?
Oui.
À travers des associations?
Oui.
Il n'y a qu'une association pour tous les agriculteurs, petits, moyens, gros?
Ils sont beaucoup plus représentés du côté américain, mais du côté mexicain, puisque le conseil n'est pas encore assez, ne fonctionne encore assez bien, ils sont plus ou moins représentés. Mais au niveau de pourcentage utilisé des sauces, c'est l'agriculture.
Mais alors, je reviens sur... Les gros sont représentés avec les petits ou c'est des associations différentes?
Des associations différentes.
Différentes. Donc, oui. Il y a une association de grands agriculteurs, monoculture, je ne sais pas, et des petits agriculteurs, oui. Aux États-Unis. Mais au Mexique, non.
Au Mexique, non.
Les villes?
Les villes sont aussi représentées. Au Mexique, dans les conseils, il y a... C'est ça, une des critiques les plus importantes faites au fonctionnement du conseil, c'est qu'il y a juste un représentant dans les conseils par les villes.
Quelle que soit leur grandeur.
Ouais.
Et les barrages sont représentés?
Non. Non.
Ah, ça, c'est intéressant.
Non.
Ils ne sont pas là?
Non, ils sont
c'est eux qui contrôlent, ils ne sont pas là?
Non.
Ah bon. Et alors, donc, ça fait des chaînes de gouvernance très lourdes. Si on met tout ça ensemble, là, les trois niveaux de gouvernement, les villes, les agriculteurs, et s'il y a quelqu'un d'autre?
Il y a aussi les représentants de la SILA sont invités,
bon.
Mais ils ne vont pas parce qu'ils disent à quoi ça sert d'y aller. De toute façon, c'est la CONAWA qui va tout décider.
Alors, ils sont combien de représentants par niveau de gouvernance? Est-ce qu'on a une idée de ça?
Normalement, ils doivent être au moins les gouverneurs de chaque État, donc 5.
Non, mais les agriculteurs et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça, ça fait pas partie du même schéma de gouvernance? Sont en dehors de ça?
Oui.
Ça devient plus compliqué que je pensais. Ok, alors je vais arrêter de faire. Ouais. Je suis en train de poser des questions, je suis en train de faire une demande de subvention. Je veux savoir, moi. Je suis très intéressé, là. Est-ce qu'il y a des questions moins intéressées dans la salle, plus intéressées par le sujet que par mes préoccupations? Madame?
C'est quoi les principaux, justement, les principales problématiques environnementales
du côté du Mexique? La perte de l'habitat. Des espèces qui ont été déjà déclarées en extinction, ils sont encore plus dégradés. Et la salinité des sols aussi, ça pose énormément de problèmes pour les activités agricoles. La contamination, tout est un cycle. La contamination dans le... Les eaux souterraines.
Les nappes phréatiques.
Les nappes phréatiques, oui.
Justement, je me rappelle, je ne sais pas, il y a 15 ans peut-être, il y avait, je ne sais pas comment le dire en français, mais...
En espagnol, en espagnol.
Un tirador local, la frontera, un concentrador de terres.
Bien.
Justement, il était en train de contaminer le côté mexicain, justement, parce que les eaux allaient du côté du Mexique. Est-ce qu'il y a une contamination nucléaire?
Que oui. En fait, il y avait, je connais un cas qui était plutôt au Nouveau-Mexique, près de Albuquerque, à la ville de Los Alamos. C'est là où ils ont fait
éclater les bombes, là.
Oui, éclater les bombes. Et Hiroshima, et, oui, ils ont fait
des tests.
Et il y avait des contaminations nucléaires. Ils ont contaminé les nappes phréatiques et tout ça a contaminé le fleuve Rio Grande. Oui, c'était les années 40.
Il y avait une question au fond, monsieur.
Si j'ai bien compris, ça veut dire que l'eau du Mexique, il est donnée aux États-Unis, où il est subtilisé, puisqu'on vous a imposé un modèle, et en retour, vous recevez du Coca-Cola, puisque le Mexique est le premier pays consommateur de Coca-Cola. Jusqu'à quel point ça c'est vrai? Vous manquez d'eau en fait. Quand on se promène là-bas, les gens, le coca est moins cher que l'eau.
Bon, concernant le fleuve, on reçoit selon les termes des traités, les deux traités 1906 et 1944, on reçoit les quantités d'eau. Et les États-Unis aussi reçoivent leur quantité d'eau du Mexique vers les États-Unis. Si jamais il y a des problèmes de sécheresse ou des problèmes de pénurie d'eau, il y a une dette d'eau qui s'accumule et qu'après on paye ou qu'après les États-Unis payent au Mexique. Et après, le compte est réglé.
Ça se paye comment, une dette d'eau?
Ça s'accumule, c'est la SILA qui...
Ils ouvrent le barrage, l'eau descend?
Oui. C'est-à-dire que cette dette d'eau est jamais payée en argent. Elle est toujours payée
en eau.
Oui.
J'ai posé une question, on peut revenir, mais j'ai posé une question. La partie qui s'assèche, c'est évidemment la partie qui est en aval. C'est combien de kilomètres du golfe du Mexique là, qui est sec? J'imagine que ça doit augmenter année après année, là, la partie dans laquelle l'eau ne coule plus.
La partie la plus problématique et la partie qui s'assèche, la partie la plus problématique en termes environnementaux, là où il y a un fort problème de salinité, où les agriculteurs souffrent le plus, est la partie en aval de Elephant Butte et jusqu'à El Paso.
Ah, c'est pas la partie... Moi, j'avais l'impression que la partie la plus sèche, c'était celle qui était le plus près du confluent, là. Non?
Non.
Non?
Non.
Alors, il faut que je fasse un cours de géographie 101. Moi, je pensais que... Non? Tu m'écoutes pas, doucement.
C'est,
oui.
Là, c'est ici où il y a le violet, l'étoile
oui,
violet,
oui.
Et la première étoile verte.
Ah bon?
Et cette partie correspond au... segment entre Elephant Butte et Azequia Madre. Pourquoi? Parce que cette partie, est, à cause de la construction de Elephant Butte, a été énormément aménagée pour faire la livraison d'eau entre, des États-Unis vers le Mexique. Et c'est cette partie qui est sec quand ce n'est pas la période d'irrigation.
Alors, il y a un bout qui est sec. Et puis après ça, ça redevient mouillé.
Oui.
Mais pourquoi? À cause du barrage qui est...
À cause de toute la sédimentation causée par des infrastructures qui ont été construites.
D'accord.
Oui.
Écoutez, rompez ce dialogue.
C'est ici
question.
Aussi, dans ce segment, qu'il y a, il y a un segment du fleuve qu'on appelle The Forgotten Ridge.
De
Forgotten Ridge, comme le segment oublié.
Ah, Forgotten Ridge. Oui.
Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a que de l'eau quand c'est la période d'irrigation.
Ah bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la... On n'a pas répondu à votre question sur le Coca-Cola, mais bon.
Non, mais c'est vrai que c'est le premier consommateur de Coca-Cola au monde.
C'est toujours la question de l'eau, mais c'est, à mon avis, je pense que ce n'est pas par rapport au saut du fleuve. La question, le fait que le Mexique soit considéré comme un des premiers consommateurs du Coca-Cola, je pense que c'est plutôt du fait que l'eau qu'on reçoit chez nous, du robinet, n'est pas potable. Le fait aussi que c'est normalement c'est considéré comme moins cher acheter une bouteille de Coca-Cola que acheter une bouteille d'eau.
Mais finalement, ça coûte plus cher puisque le Mexique a un problème d'obésité terrible maintenant. C'est probablement un excès de Coca-Cola.
Mais ici c'est le lait. C'est le lait qui est plus cher que le Coca-Cola.
Il y a aussi,
même problème,
y a aussi
c'est
un problème
c'est
de,
c'est
de marketing de Coca-Cola pour que le Mexicain ou n'importe qui achète leurs produits.
Mais on nous a dit l'autre jour que l'eau bandée du Mexico était pure, qu'on pouvait la boire. C'est vrai? Le consul nous a dit ça, non? L'ambassadeur. Que l'eau du Mexico, l'eau du robinet à Mexico, de la ville de Mexico, DF, Distrito Federal, vous pouvez la boire.
À mon avis, je ne pense pas.
Quand il y a eu des tremblements de terre,
oui.
Il y a des choses qui se sont mélangées et que ça
ne
se peut pas faire.
Ça ne se peut pas, non. Pardon, j'ai pas pu.
Ça fait des années.
95. Non? 85,
peut-être que dans certains cas, peut-être que dans certaines villes ou municipalités, au niveau de pollution, l'eau est propre. Mais au niveau de quantité de minéraux, ce n'est pas bon pour la santé. Ça, c'est notre problème.
Un autre... Oui, allez-y, oui. Est-ce que la Conagua est du bon côté? Le thèse n'est pas fini.
Il y a une citation ici pour répondre à ta question. Je vais le lire, c'est en espagnol. Es una publicación de 2012. Se llama, la publicación es el Programa Hídrico Visión 2030, Región Hidrológica Administrativa 6, Río Bravo. Dice, bueno, al respecto la CONAGUA ha mencionado en esta publicación que el marco normativo e institucional ambiental en la región, es decir, el Río Bravo, es complejo y ambiguo y que la coordinación intergubernamental regional es insuficiente. En la región drenada por el Río Bravo existe una falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. La ingobernabilidad es el resultado. Los recursos de la cuenca no se han reconocido como bien común y medio de subsistencia. La cuenca no ha sido reconocida como el espacio geográfico de gestión. La complejidad legal y normativa, la débil consolidación de los consejos de cuenca, la desintegración de la gestión de los recursos de la cuenca, son las razones de la ingobernabilidad, la insatisfacción de los usuarios respecto a sus demandas y necesidades, la poca participación ciudadana y poco sentido de apropiación de la cuenca son razones que no han permitido la consolidación del enfoque de la gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca del Río Bravo.
Te respondo a la cuestión. Ce fameux mot de gouvernabilité, pardon.
Ah, bon, oui. Bon, oui. C'est la CONAGUA dans une de ses publications qui dit que c'est la faute de. C'est à cause de la manque de coordination entre les trois niveaux de gouvernement qu'il existe un problème
et la société civile
qu'il existe un problème de ingouvernabilité dans la région du bassin de Rio Bravo. Une des raisons de ces problèmes, c'est que le bassin n'a pas été reconnu comme l'espace géographique de gestion, qu'il existe une faible consolidation de conseils de bassin, il existe une désintégration de la gestion des ressources du bassin, il existe une insatisfaction des usagers vis-à-vis leurs besoins. Demande et besoin. Il existe une faible participation citoyenne et un faible sens d'appropriation du bassin. Tout ça, ce sont des raisons qui n'ont pas permis la consolidation de l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau. Alors que c'est la CONAGUA qui a imposé l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau.
Ça s'appelle un cercle vicieux.
Oui.
Voilà. Autre petite question, grande question. Oui, allez-y. Oui.
J'ai une question. J'avais écouté dans la radio, dans un journal peut-être, que dans cette situation des dettes de l'eau. Dans un moment donné, les États-Unis, ils avaient les moyens, du côté des États-Unis, il y avait les moyens pour faire des installations, pour faire des aqueducs, pour mieux profiter de l'eau, alors que du côté mexicain, il n'y en avait pas. Alors, même si l'eau coulait, disons, de manière neutre, c'était vraiment les États-Unis qui en profitaient le plus. Et donc, peut-être la dette de l'eau, à cause de la différence en ressources, disons d'un côté, ils faisaient des installations pour prendre plus d'eau, et puis de l'autre côté, ils laissaient juste couler.
C'est vrai que l'eau coule du haut vers le bas. Dans les deux cas, c'est-à-dire du cas du Rio Grande et du cas du Colorado. Mais dans les deux cas, depuis très longtemps, les quantités ont été définies. Et dans les deux cas, ces quantités définies font en sorte que les deux pays reçoivent plus ou moins la même quantité.
Et comment on mesure ça ?
Aujourd'hui, si on se fie aux conditions actuelles, ces quantités n'ont aucun sens. Mais à l'époque, les personnes qui ont été des ingénieurs ont défini ces quantités par rapport aux conditions actuelles de l'époque. Et à cette époque, il n'y avait pas une population assez large, les conditions d'agriculture n'étaient pas assez productives comme aujourd'hui, le climat n'était pas assez fou comme aujourd'hui, donc tout était beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Donc c'est par rapport à ça qu'ils ont défini les quantités. Ça fait depuis 1944-1939 qu'on s'y commençait les négociations. Et même aujourd'hui, ils continuent à partager les mêmes quantités. Et c'est vrai que les États-Unis pourraient avoir beaucoup plus d'eau aujourd'hui, parce que peut-être qu'il neige plus, ou parce que peut-être qu'il pleut plus, mais le Mexique continue à recevoir exactement la même quantité d'eau. Et c'est exactement la même situation pour le Mexique. Si le Mexique a beaucoup plus d'eau dans leur tributaire, s'il pleut plus, et si le Mexique arrive à avoir beaucoup plus d'eau dans ses barrages, il donne exactement la même quantité qu'il doit donner aux États-Unis. C'est pour ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour les deux pays, pour le Mexique et les États-Unis, pour ne pas intégrer la gestion de l'eau. Parce qu'ils se disent, si jamais on s'intègre dans la gestion de l'eau, ça veut dire alors que, d'une part, on doit modifier les quantités qu'on reçoit et qu'on donne, et d'autre part, on doit intégrer les modèles de gestion en termes de qualité. Et la qualité, c'est un terme qui fait clic, 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 clic.
Monsieur,
si je m'ai compris, les quantités sont définies par rapport à la situation économique sociale qu'il avait en 1929.
Alors, qu'il y avait en 1906. Imagine-toi, 1906 et 1939.
Mais
et depuis.
Si on va à la situation de 2013.
Oui.
On a un manque d'eau, même si on arrive à.
Alors, qu'est-ce qu'il fait par exemple les États-Unis? Quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas eu, quand il n'y a pas neigé, quand il n'y a pas eu la pluie, quand le fleuve ne s'est pas rechargé de façon naturelle. Alors les États-Unis, pour accomplir leurs obligations selon les traités, ils font des transferts interbassins dans leur territoire, bien sûr, pour remplir les barrages. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à donner de l'eau au Mexique.
Eh bien, on pourrait revoir tout ça. Pardon, il y a une autre question? Oui.
Parce que c'est une question épineuse, parce que ça, ce n'est pas de leur intérêt. Ça ne les intéresse pas.
Ni le Mexique, ni les États-Unis.
Ni le Mexique, ni les États-Unis. Tu as raison, il y a une notion derrière ça, il y a un coût de transaction énorme derrière tout ça. Donc ils préfèrent résoudre des problématiques comme ça, ils préfèrent attendre que le Mexique remplit ses barrages et attendre 5 ans pour payer la dette, attendre. Et ils savent qu'à certains moments il va pleuvoir, ils savent qu'à certains moments il va neiger. Mais ouvrir les traités, il n'y a pas de question. Je ne dirais pas des solutions, mais des conséquences. Et Donc ces rayons que je vous ai dit tout à l'heure, Las Cruces, El Paso et Ciudad Juárez, il y a des agriculteurs qui sont en train de, entre guillemets, de fermer leurs terres, de vendre leur terrain, parce que l'agriculture n'est plus soutenable, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour soutenir leur terrain. Donc ils sont en train de vendre leurs terres. Ils sont en train de vendre leurs terres à des firmes constructoras qui viennent pour construire des terrains, des immeubles, qui viennent des industries. La région est en train de devenir industrielle plutôt qu'agriculteur.